Je suis Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3, vous raconter leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région Ouest. Quels ont été leurs parcours? Comment ont-ils innové? Quelle est leur vision pour leur territoire? L'épopée d'Antoine Scheul, cofondateur de Shopopop, c'est maintenant. Antoine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée de Shopopop. Ce sera le dernier épisode de la saison 3 dédié à la nouvelle génération. En quelques mots, tu es né en 1990, tu as grandi du côté de Montreuil-sous-Pérouse, près de Vitré. En 2015, tu crées du côté de Nantes Shopopop avec ton acolyte Johan Rico. C'est le service leader de livraison en co-transportage. Vous avez réinventé la livraison à domicile en la rendant plus humaine, économique et responsable. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de livraisons qui ont été effectuées avec Shopopop, 4200 commerçants partenaires, 26 000 villes et villages desservis pour plus de 1 milliard de biens transportés. Et toi, Antoine, comment tu pitcherais Shopopop en 30 secondes ?
Shopopop, en fait, c'est se rendre service au quotidien, c'est utiliser ses trajets pour livrer ses voisins. Donc j'ai un déplacement, je me déplace, je récupère les courses de quelqu'un, je les livre et je gagne quelques euros pour ça. Et en même temps, je fais une rencontre, je découvre un voisin, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui vient d'emménager. Et aussi, je contribue au commerce de proximité parce qu'en fait, même si on parle d'un énorme Leclerc, tout le monde est secoué par la transformation digitale et les grandes plateformes e-commerce. Donc en fait, je contribue à faire vivre le commerce de proximité.
Bon, on voit que tu as fait quelques pitchs, t'es bien rodé. Et toi, comment tu te présenterais en 30 secondes alors ?
Alors moi, je suis Antoine Scheul, comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui vient de la campagne, j'habite maintenant à Guingamp, et du coup ce lien m'a toujours été cher. À 16 ans, j'ai créé une association qui permettait à des jeunes d'aider des gens un peu plus âgés à tondre les pelouses, à faire de l'aide aux devoirs, des services pour des repas. Et donc cette création de lien m'a toujours été cher, et donc Shopopop est une des versions du monde que j'aimerais bien voir demain.
Ok. Et revenons justement plus en détail sur ta jeunesse. Comment ça se passe du côté de Montreuil-sous-Pérouse ?
Ben, ça se passe très bien. C'est un village de 1000 habitants. Du coup, il y a une très grande proximité entre tous les gens. Et c'est d'ailleurs un des points qui m'a fait aussi lancer Shopopop, entre autres. C'est que après des années à Montreuil, j'ai été absent, je suis parti en Inde pendant quelques temps.
Donc, tu avais quel âge ?
Là, j'avais une vingtaine d'années. Ouais. Et du coup, quand je suis revenu, tout le monde savait exactement ce qui m'était arrivé, en fait. Et par contre, quand j'ai habité à Nantes pour la première fois, je ne connaissais même pas mes voisins de palier. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on soit autant empilés et qu'on ne se connaisse pas. Donc, l'idée de lien, d'apprendre à se connaître, du voisinage, est un peu émergé de cette tendance-là. Mais, et l'esprit de village est pour moi quelque chose d'ultra riche, un peu sous-estimé, mais qu'il faut essayer de déployer. Les technologies nous permettent de le faire. Donc voilà.
Donc Montreuil-sous-Pérouse t'a inspiré du coup ce lien
ouais,
social.
Ouais, mais je pense que c'est Montreuil-sous-Pérouse, ça aurait pu être n'importe quel patelin. Ouais. Et voilà, on a eu une belle enfance dans ce village.
Et justement, tu étais un bon élève.
Disons que j'étais un élève correct. Je pense que si j'avais bossé à l'école, j'aurais pu être un très bon élève. J'ai eu mon bac sans grande gloire, mais j'étais un élève intéressé. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre, mais je n'étais pas quelqu'un de très rigoureux quand je ne voyais pas forcément l'intérêt de se battre un peu plus pour avoir 2 points de plus sur une note. Je ne faisais pas cet effort-là.
Et justement, donc après ton bac, tu étais parti dans quelle filière, quelle école
Ensuite, je suis parti dans du commerce, sans trop savoir ce que je voulais, mais les matières m'intéressaient. Et donc, petit à petit, je me suis retrouvé à étudier en Inde, en Chine, aux États-Unis, et puis même un peu en Espagne. Et donc voilà, c'est ça qui m'a un peu formé aussi au fur et à mesure de ces rencontres.
Et comment donc tu arrives sur le marché du travail ? Comment tu arrives en Inde ? Comment ça se passe toute cette époque-là ? Parce que donc, vers la vingtaine ?
Ouais, exactement. Donc en fait, en fin d'études, mon cursus me faisait passer par la Chine et les États-Unis notamment. Et au préalable, j'avais passé un peu de temps en Inde, un an en fait, pendant une année d'études, où je m'étais dit, tiens, l'année m'a vraiment changé, on va dire, vu beaucoup de choses. Et quand j'étais en Chine, concrètement, je m'emmerdais. Et l'idée, c'était de dire comment on pourrait faire vivre l'expérience indienne à beaucoup plus d'étudiants, parce que c'est un pays qui fait encore peur, qui est très mystique, on va dire, et il y a plein de préjugés autour de ce truc-là. Et donc, j'ai commencé à travailler sur une boîte qui s'appelle Namaste Students, et qui permettait à des étudiants étrangers d'être accueillis par des Européens, en l'occurrence moi, puisque on était un, et pour les aider sur son installation sur place. Donc j'ai commencé à faire ça, et donc comme par hasard, j'ai trouvé un boulot en Inde en VIE, où j'ai pu faire ce VIE et développer cette boîte un peu, puisqu'en fait, elle s'est vite arrêtée, mais ça m'a remis les pieds dans ce pays-là, et c'est là que l'aîné de Shopapop est né. Grâce à ce mélange entre les Dabbawala, donc ce système de livraison à Bombay, le mélange avec le covoiturage et puis la partie drive et une transformation de la livraison alimentaire.
Parce que justement en Inde, c'est l'histoire de repas, ça qui sont co-transportés.
Les repas sont préparés par généralement la femme. Ensuite, sont récupérés par ce qu'on appelle un dabbawala. Donc c'est une petite boîte où on va mettre le repas et qui va être transporté jusqu'à la gare de Bombay. Et ensuite, une fois là-bas, c'est redispatché vers les quartiers d'affaires où le repas est livré encore chaud. Et le taux d'erreur est extrêmement faible sur ce système de livraison. Et donc c'est un côté très inspirant. Et puis aussi, on n'utilise que des transports doux. C'est-à-dire qu'on va simplement utiliser des bus, des trains, des charrettes, à pied, à vélo. Et ça, c'est une vertu qui est assez sympa dans un pays qui est extrêmement pollué.
Et donc, tu reviens en France.
Exactement.
Et là, il se passe quoi ?
Et là, il se passe une rencontre, enfin plusieurs, où je parle de cette idée-là avec un ancien prof, qui pour le coup est indien lui aussi, Prashant. Et du coup, il me fait rencontrer Johan, qui me dit, tiens, il y a ce gars-là, il a envie de monter un truc. Alors lui, il était parti sur un sujet complètement différent autour d'un Tinder de l'événementiel. Et en discutant comme ça, on a abouti à dire, on va plutôt prendre ce projet-là, qui est devenu au final Shopapop, dont c'est lui qui a trouvé le nom d'ailleurs. Mais vraiment, ça s'est fait en deux rencontres. Première rencontre, salut, comment ça va, comment tu t'appelles? Et deuxième rencontre, on lance une boîte. Et au fur et à mesure, on a eu d'autres associés au fur et à mesure de l'aventure. Mais ce duo est resté finalement, s'est construit et était assez solide et a réussi à faire ce qui est devenu Shopapop aujourd'hui.
Et justement, là, tu nous parles un tout petit peu de la genèse, mais si on rentre un peu dans les détails du début, moi je me souviens, c'est l'époque où je vous ai croisé avec vos t-shirts fuchsia, avec le logo du kangourou à la Startup Battle du West Web Festival, où notre ami Angevin, Romain Bûcher, vous avez fait perdre en finale, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, est-ce que tu peux revenir un peu sur toute cette époque-là? On est en quoi en
2016-2017. Et donc, en fait, nous, on faisait nos premiers pas dans l'entrepreneuriat. On n'avait pas tout à fait conscience de ce qu'on faisait. On peut le dire que maintenant, à l'époque, on était ultra convaincus, mais on avait encore des décalages. On n'avait ni l'un ni l'autre travaillé dans la logistique, ni dans le retail, ni non plus dans la tech. Je ne savais pas ce que c'était que du HTML, rien à voir. Donc, il fallait découvrir beaucoup de choses. Donc, ça a été une période assez compliquée, une année 2017 très compliqué aussi, où changement, des évolutions sur les associés, putec, tout partait en couille en fait. Et petit à petit, en ayant les bonnes personnes à bord, on a réussi à reposer des bases et à construire en fait ce qui est devenu Shopapop, ce qu'il faut remettre dans le contexte qu'à un moment, Shopapop, il fallait faire sa commande sur le drive de notre magasin préféré, ensuite aller sur Shopapop, demander sa livraison, payer sa livraison, c'était extrêmement fastidieux. On arrivait à avoir quelques petits volumes, quelques petites livraisons ici et là, alors principalement dans l'Ouest, mais ça a pris beaucoup de temps. Et une fois que certains distributeurs ont commencé à nous faire confiance, je pense à quelques Super U, quelques Intermarchés, puis quelques Leclerc, là on a eu une vraie accélération, et là c'est une autre histoire
qui est beaucoup.
plus sympa.
On va arriver à cette phase-là, mais c'est vrai que sur les débuts, tu dois effectivement convaincre les grandes surfaces, convaincre donc les fameux shoppers. Comment ça se passe? Parce que tu as dû, avec Johan, faire quelques livraisons vous-même, et je pense qu'il y a des anecdotes là-dessus.
Bon, on a fait beaucoup de livraisons au tout début, nous-mêmes. Hein. On voulait d'abord tester la technologie, que ça fonctionne, donc bon, ça, on pouvait le faire nous-mêmes. Après, il fallait valider le modèle. Donc, la première fois que quelqu'un qu'on ne connaissait pas s'est fait livrer par quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'était déjà une grande victoire. Donc là, on était en 2016, je pense, quand cette première livraison s'est effectuée. Ensuite, bah, il a fallu voir est-ce que, bon, OK, on est à Nantes, est-ce qu'on va être capable de le pousser là où on n'est pas physiquement pour être en backup. Donc, on a ouvert Angers, on a ouvert à Rennes, on a ouvert jusqu'à Lyon pour tester comme ça la distance. Et ensuite, on a ouvert à Bordeaux et petit à petit, bah, voilà, ça a grandi, ça s'est fait.
Le time to market pour vous arrive à quelle époque à peu près?
Il arrive fin 2017, début 2018. Ouais. C'est vraiment là où, pour donner un chiffre, en décembre 2017, on est jusqu'à la dernière heure du nouvel an et on ne franchit pas les 1000 livraisons sur le mois. On est à 998, un truc comme ça. Et c'est une petite frustration qu'on n'a pas passé l'année 2017 sur le cap des 1000. Bon,
donc
c'est anecdotique.
1000 livraisons par mois.
Par mois.
Et là, juste aujourd'hui, pour avoir une idée.
Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 330 000 mensuels.
Mensuels, ouais. Ok. C'est important de remettre dans le contexte. Donc ça a été un moment très fort, ce time to market. Et je pense que l'accélération aussi, bon, qui arrive un peu plus tard, le Covid, vous avez été des grands gagnants, entre guillemets, du Covid.
Ouais, c'était une période vraiment intense. Pour nous, le Covid, concrètement, le jour de l'annonce, nos volumes, on faisait à ce moment-là à peu près 1000 livraisons par jour. On est passé à 3200, 3300. Donc, ouais. Ça a été un grand chambardement chez nous. Tout le service client, bah, comme pour tout le monde, hein, était à la maison. Donc, on a dû s'organiser comme tout le monde. Et on a eu vraiment 48 heures de la tête sous l'eau. Et après, les équipes se sont très bien organisées, c'était vraiment incroyable là-dessus. Et tout le monde s'est mis à faire du service client. On a changé quelques petites règles pour être capable de pouvoir gérer ce flux soudain. Et ça a très bien fonctionné, ce qui fait que le premier mercredi, en fait, après du confinement, bah, on était au taquet et puis on arrivait à faire nos livraisons de manière ultra maîtrisée. Et depuis, bon, on a encore fait x5, en fait, ouais. depuis cette époque-là.
Parce que le visage d'un shopper, c'est quoi? C'est quoi le profil?
C'est quelqu'un comme tout le monde. Vraiment, on n'a pas vraiment de profil type. Alors, il faut avoir le permis, puisque la grande majorité de nos livraisons se font en voiture, puisqu'on livre des courses. Hein. C'est quand même des gros paniers. On est à peu près à 150 euros de moyenne, donc c'est des grosses courses. Et puis après, bah, on a toutes les typologies. Les gens viennent souvent en se disant « Tiens, bah, je vais pouvoir arrondir mes fins de mois. » Donc, c'est une bonne raison de venir rejoindre ShopUp. Mais pourquoi ils restent? C'est pour ce lien que j'évoquais au début de notre échange, sur se rendre utile, de rencontrer des gens, de pouvoir se sentir utile. Là, maintenant, il y a tous les sujets autour de l'impact. Les gens ont l'impression, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, d'apporter leur petite contribution à ça et le rendre service. On a beaucoup de retours, notamment avec des personnes âgées, des personnes handicapées, mais plus largement aussi la capacité à rendre ce genre de service qui est très urbain notamment, en plein milieu de la campagne, dans le centre Bretagne, dans le Limousin, peu importe où en France, on est capable aujourd'hui de livrer en 2 heures.
Ouais. Et forcément, pour pouvoir exécuter de cette façon ShopUp, la question du financement a été importante. L'autofinancement était forcément impossible. Alors, comment ça s'est passé? Quelles ont été les grandes phases
Effectivement, nous, on sortait des études ou première expérience professionnelle, donc on n'avait pas beaucoup de cash. On ne pouvait pas compter sur un background familial très, très solide. On a eu beaucoup de soutien moral, et ce qui est extrêmement important, et je remercie toujours mes parents pour ça. Par contre, au niveau économique, c'est vrai qu'on était un peu léger. Donc, on a fait quelques emprunts, récupéré des bourses par-ci, par-là. Et on a eu la confiance de Bambou, tout d'abord, un réseau de business angels nantais qui nous a nous a fait confiance tout début 2018 et qui nous a permis vraiment d'amorcer et de convertir nos premières intentions de croissance. Et ensuite, bon, bah voilà, Épopée est arrivée avec Go Capital en 2018, un peu plus tard, où on a fait une première on va dire, levée un peu significative avec 2 millions d'euros. Un an plus tard, on a relevé 4, et à chaque fois, on était sur des multiples de x5 hein, quasiment tous les ans. Et puis la dernière levée un peu significative, c'était fin 2021, où on a levé 20 millions d'euros avec un fonds parisien cette fois, les historiques qui nous ont permis du coup d'accélérer à l'international et plus récemment d'atteindre la rentabilité, ce qui est absolument essentiel dans ce type de business, puisque moi j'ai toujours dit à mes clients, j'ai pas envie que votre système logistique sur lequel bah, vous avez des attentes ne dépende pas sur ma capacité à lever des fonds. Ouais. Et donc on a eu toute cette dégringolade du quick commerce sur l'année 2020, 2021, 2022, qui a démontré que bah, il fallait un modèle qui ait une vraie vision, une rentabilité, une pérennité pour pouvoir rendre service au plus grand nombre.
Justement, on a parlé beaucoup du passé. Quelle est ta vision d'entrepreneur concernant ton marché, ben, l'international, la réglementation, les dépôts de bilan de nombreuses startups, parce que de temps en temps, on peut confondre un peu ton modèle, ta vision, et puis des startups qui sont ultra financées, mais qui la rentabilité ne peut difficilement être atteinte. Ouais.
Bah, nous, on est vraiment sur un sujet de valeur simple, c'est-à-dire qu'on se rend service. Effectivement, dans l'usage, des fois, on peut même être comparé à Uber ou à Deliveroo ou à ce genre d'application. Mais on limite l'usage en fait, de notre application. Quand ces applications vont inciter leurs livreurs, auto-entrepreneurs, pas toujours déclarés ou pas toujours avec des papiers, nous, on va plutôt les restreindre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner par an plus de 3000 euros sur Shopupup. Si vous commencez à faire trop de livraisons dans la même journée, on va commencer à vous restreindre parce qu'on veut que vous restiez dans les valeurs et dans l'usage que l'on promeut. Donc voilà un peu ce qui va vraiment nous séparer. Et puis ben, l'importance d'avoir un business model rentable est complètement primordial. On ne veut pas être un énième Uber qui est lié à la hausse des taux d'intérêt. En quoi Madame Michu qui veut se faire livrer, qu'est-ce qu'elle en a à faire que les taux d'intérêt soient hauts ou soient bas? On lui doit de proposer ses services.
Ouais, ouais. Et justement, on parlait tout à l'heure des levées de fonds et ça rejoint un peu la vision. Lorsque l'on parle international, vous avez tenté du coup d'ouvrir pas mal de pays. Comment ça se passe par rapport à nos auditeurs? Est-ce que tu as des conseils pour tel pays?
Alors oui, à Shopupup, on a eu la confiance, on va dire, peut-être un peu... peut-être naïve, mais on s'est lancé sur 3 pays d'un coup. Alors pour lancer, c'est-à-dire on va se lancer dans une aventure européenne, là, théoriquement, on est plutôt sur de la prudence, on va aller à un, on va regarder ce qui se passe et tout. Moi, je voulais lancer 3 pays pour voir si ça plante, voir où est-ce que ça a cassé. Est-ce que c'est un sujet d'équipe? Est-ce que c'est un sujet de marché? Est-ce que c'est un sujet autre? En fait, c'est ça que j'avais vraiment envie de valider. La preuve, c'est qu'on a lancé Portugal, Italie et puis la Belgique. En Italie, on a changé toute l'équipe au bout de quelques mois. Au Portugal, on a fermé parce qu'on considérait que le marché n'était pas suffisamment mature et pas suffisamment gros pour patienter. Ensuite, on a ouvert l'Espagne, où ça se passe plutôt bien. On a gardé l'Italie et aussi la Belgique, où on vient tout juste là de changer toutes nos équipes encore une fois, parce que nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on prend conscience des enjeux et de quels sont les véritables attendus des gens à l'étranger. Donc effectivement, les personnes sont extrêmement clés. Et on a aussi gagné en maturité puisqu'on a lancé l'Allemagne et puis on l'a refermé assez rapidement puisque les quelques points qu'on cherchait à valider n'étaient pas répondus. Donc voilà, on y retournera très probablement. On a aussi des envies d'aller de l'autre côté de la Manche. Donc l'aventure internationale ne fait que commencer. On a beaucoup d'ambition puisque c'est un marché à l'échelle mondiale qui est en milliards. Et donc on pense avoir une part à prendre et notamment pour créer une livraison vertueuse, puisque notre bilan carbone est bien meilleur que celle de n'importe quel véhicule, puisque même si on transforme sa flotte, on met de l'électrique ou de l'hydrogène ou peu importe, la meilleure économie, c'est la dépense qu'on ne fait pas. Donc de ne pas acheter de véhicule, c'est toujours mieux que d'en acheter aussi propre soit-il.
Ouais. Et 6 ans après tes débuts, toi et ton entreprise, vous êtes primés régulièrement. Comment vous innovez au quotidien du côté de Shopopop, ouais.
Ben, l'innovation, elle est aussi liée à nous-mêmes, en fait, à notre capacité. Déjà, à nous-mêmes, on est très jeunes. Enfin, on a commencé cette boîte-là à 24, 25 ans. Là, aujourd'hui, on en a 32, 33. Et du coup, on doit nous-mêmes se réinventer tout le temps, rechallenger nos acquis, nos croyances. Et ça, c'est un énorme sujet pour nous, on va dire, en tant qu'entrepreneurs. Et puis après, bah, c'est de mettre les équipes, aligner les équipes sur notre vision, sur notre philosophie. Et ça, je pense que l'équipe est assez engagée là-dessus. Et ce qui nous permet de pouvoir nous projeter. Maintenant, on a surtout exécuté cette vision sur le dernier kilomètre. Maintenant, on commence justement à ouvrir les chakras sur d'autres zones, d'autres sujets. Et donc là, on met toute l'équipe au fourneau pour réfléchir avec nous sur quel sera le Shopopop de demain.
C'est combien de personnes aujourd'hui sur la tech
Au
global.
Ouais, Shopopop en tout, c'est à peu près 140-150 salariés. Et puis, alors si on prend la communauté de toutes les personnes qui gravitent autour, on parle de 2,5 millions. Donc ça fait beaucoup de monde. Maintenant, l'équipe pure, voilà, 150 personnes, et la tech et le produit, c'est une trentaine, quarantaine de personnes.
Ouais, d'accord. Antoine, dernier thème, hein, la Bretagne historique te stimule, notamment du côté des Côtes d'Armor. Tu as parlé de Guingamp tout à l'heure. Quelle est ta vision pour le territoire, ouais?
Moi, je pense qu'on vit dans un moment où notamment les technologies nous permettent d'être partout. Alors, il y a beaucoup de sujets autour du télétravail et c'est très bien. Je pense que c'est une opportunité énorme pour se répartir un peu plus, qu'on déconcentre les grands pôles urbains. Alors, Paris en premier lieu, mais même Rennes, même Nantes, où les loyers sont extrêmement chers. Et donc, en ayant la capacité de se répartir, donc en ayant accès à la fibre, à la 4 ou 5G pour pouvoir travailler à distance, même en petits groupes, pouvoir se retrouver. Je trouve que c'est une occasion incroyable de pouvoir vivre un peu partout et puis et toujours en créant de la valeur. Alors pour le territoire, nous, on a toutes nos équipes, toutes nos technos est développé à Nantes, tout est en local, on n'est pas en train d'externaliser partout, on fait très attention à tout ça. Et ça, c'est toujours un truc que je regrette un peu. Et puis on a un petit peu cette espèce de fierté, des fois qui nous joue des tours d'ailleurs, mais d'être très, très breton ou très dans l'ouest, très dans la province, et de s'opposer un peu à Paris pour dire que nous aussi, on est capable de faire des choses, même si on a un peu moins le regard des médias, même si on a un petit peu moins le regard des politiques. On est capable de faire de belles choses, de belles boîtes, et puis on a toutes les raisons d'être fiers de notre Bretagne.
Et la perception, là, tu parles, on va dire, l'Ouest par rapport à Paris, ton histoire, donc ça part des drives, et du côté de Paris, à l'époque, il n'y avait pas forcément cette réflexion,
ouais.
Ça t'a joué des tours.
Exactement, en fait, c'est au moment de nos dernières levées de fonds, on a été beaucoup heurté, en fait, aux financeurs qui sont... pour la grande majorité parisien, et du coup qui ne comprenaient pas cette histoire de drive, de relais, de livraison, tout ça, à partir des drives, puisque eux, c'est Monoprix, Franprix, où ils font de la livraison éventuellement en sortie de caisse avec quelques camions, mais ce concept n'existait pas pour eux. Eux ne voyaient que le quick commerce, donc des gens qui promettaient de la livraison en 15 minutes, des Gorillas, des Getir, des Cajou et autres. Et donc nous, on a pas mal cravaché et on a eu de la chance d'avoir des gens qui nous ont fait confiance, qui ont regardé un peu de l'autre côté du périph. Ils se sont dit « Ah ouais, il y a un truc ». Et en plus, ça a l'air de tenir la route et on ne va pas cramer des milliards. Ouais. Et on a réussi à le faire, mais ça a été chaud. Ça a été très chaud.
Et par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs? Parce que tu es vraiment passé par toutes les étapes, notamment tout à l'heure, tu parlais de tes différents tours de financement. Ouais. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as un petit peu de temps à leur accorder? Je sais que ce projet, premier étage, te prend un peu de temps.
Ouais, ouais, alors de base, déjà, depuis assez longtemps, je rends service, je me rends disponible pour des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont peut-être une étape ou deux en aval de notre stade, donc sur lequel on peut apporter un peu de retour d'expérience. Et donc, je faisais ça comme ça depuis quelques années. Et puis, à un moment, le problème récurrent était, est-ce qu'on arrivait à avoir 50, 100K, 50 ou 100 000 euros pour pouvoir valider une hypothèse, aller à l'étape d'après. Et donc, j'ai réuni une quarantaine d'entrepreneurs principalement nantais et aussi quelques rennais autour de Premier Étage, qui est en fait un espèce de réseau de business angels qui permet de financer des projets très tôt. Et donc, en 2023, on a fait nos premiers investissements, 5 investissements. Pour 5 startups qui sont dans l'Ouest et qui nous promettent de beaux horizons. Et voilà, donc là, on est en train de lancer le deuxième véhicule qui se passe bien, qui sera un peu plus gros que le premier, avec de nouvelles têtes qui nous rejoignent. Et ça, c'est canon pour essayer de lancer cette boucle où on s'entraide. Bon, voilà, on n'est pas toujours très loin des valeurs hein, de se rendre service. Et puis voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait.
Donc, justement, tu parles de différentes personnes là, que tu as en tête. Selon toi, quels sont les piliers de l'écosystème à rencontrer sur notre territoire,
ouais. Il y en a beaucoup. Là, c'est la grosse difficulté de ne pas en oublier. Mais il y a quelques grandes têtes. En fait, il y a eu plusieurs générations dans l'écosystème, notamment à Nantes, avec, on va dire, les historiques, les iAdvise, Lengo, Akeneo, qui sont là depuis un bon moment. Il y a une deuxième vague, on va dire, avec les guest suites, il y a Utister. Et là, je vais oublier plein de gens et je suis désolé d'avance.
Vas-y.
Et puis après, il y a les Rennais. Je pense à Steeple, je pense à Klaxoon, il y en a plein d'autres, encore une fois, n'oubliez pas mal, beaucoup de sujets autour de la RH, je pense, avec Florent Letourneur, David Beaurepaire,
Hello Work,
exactement, et puis voilà, Quentin Decré, là, qui lance un nouveau projet aussi sur la partie RH.
Jarvi.
Donc, on est sur un bel écosystème qui s'entend bien, qui bouge bien, qui se fait pas mal de passes décisives pour pouvoir s'entraider. Et ça, c'est fabuleux. Hein. L'entrepreneuriat apporte vraiment ça.
L'interview touche à sa fin. J'ai deux dernières questions. Bon, la traditionnelle, hein, quelles questions aimerais-tu que l'on te pose et que l'on ne te pose jamais? Et j'ai une petite question bonus aussi de ton associé Johan Rico. Antoine tient toujours le discours qu'il se passe beaucoup de choses en dehors du bureau et notamment autour d'une bière. Jusqu'où iras-tu?
Alors, si on parle d'aller boire des coups, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'ambition. Je pense qu'y a beaucoup, beaucoup de projets à créer, à développer partout. Enfin, c'est la grande difficulté, c'est de se dire non, là, tu n'as pas le temps, tu ne vas pas y arriver. Il faut faire des choix. Mais ouais, il y a de l'ambition, il y a des gens géniaux partout. Il faut arriver à essayer de créer des projets avec tous ces gens-là. Donc,
Et la question alors que tu aimerais que l'on te pose et que l'on ne te pose jamais?
Souvent on me pose la question de pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu donnes tout ce mal en fait pour faire ça. Et moi franchement ce qui m'anime c'est les équipes quoi, c'est incroyable l'énergie, les sourires des gens. Alors en plus nous on est quelque part un côté des multiplicateurs puisqu'on a toute cette communauté, souvent c'est virtuel mais ça m'est arrivé de faire des covoiturages et les gens étaient trop content de rencontrer le mec de Shop Up Up. C'est génial. Faire des photos avec des gens pour avoir créé une application. Et au-delà du côté un petit peu glorieux de ça, c'est vraiment, on sent que les gens, sincèrement, on a créé quelque chose dans leur vie, quoi. On a changé quelque chose, on leur a apporté du bonheur, de l'utilité. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi.
Dernière question. Es-tu d'accord avec moi pour qualifier la destinée de Shop Up Up d'épique?
Ah ouais, carrément, carrément.
Merci Antoine, c'était l'épopée de Antoine Scholl, cofondateur de Shop Up Up par Sébastien Lecorfec. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée, Gestion et Explore, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.